Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Quand nous pensons à un astre, nous imaginons presque toujours une sphère. Une planète ronde, harmonieuse, régulière. Depuis l'Antiquité, la sphère représente la perfection céleste. Les Grecs voyaient dans le cercle et la sphère les figures naturelles du ciel. Même aujourd'hui, lorsque nous regardons les photographies de la Terre, de Jupiter ou de Saturne, cette intuition demeure. Les mondes célestes seraient nécessairement lisses, équilibrés, presque géométriquement parfaits. Et pourtant, quelque part entre Mars et Jupiter, flotte un objet qui ressemble davantage à un os de chien qu'à une planète. Un gigantesque haltère métallique perdu dans le vide. Cet objet existe réellement, il s'appelle Cléopâtre. Son nom officiel est 216 Cléopâtre parce qu'il fut le 216e astéroïde découvert. C'était en 1880. L'astronome Johann Palisa l'observe depuis l'observatoire de Pola, alors situé dans l'Empire austro-hongrois et aujourd'hui en Croatie. À cette époque, un astéroïde n'est qu'un point lumineux. Les télescopes ne permettent pas de distinguer la forme. Pendant ces décennies, Cléopâtre reste donc un simple point parmi des milliers d'autres. Mais peu à peu, les astronomes remarquent quelque chose d'étrange. Tous les astéroïdes changent un peu d'éclat lorsqu'ils tournent sur eux-mêmes. Une forme irrégulière réfléchit différemment la lumière selon son orientation. Mais dans le cas de Cléopâtre, les variations sont particulièrement spectaculaires. Comme si l'objet était extraordinairement allongé. Pendant longtemps, pourtant, cela demeure une énigme. Voir réellement un astéroïde est extraordinairement difficile. Même les plus grands télescopes n'en montrent qu'un minuscule point. Et puis arrive une technique presque magique, le radar astronomique. Le principe est magnifique. Depuis la Terre, on envoie une onde radio vers l'astéroïde. Cette onde voyage à la vitesse de la lumière, frappe l'objet, puis revient vers nous. En analysant précisément les échos, on peut reconstituer la forme approximative du corps céleste. Grâce notamment au radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico, les astronomes obtiennent enfin, dans les années 1990, une image de Cléopâtre. Et la surprise est immense. L'objet ressemble à un os. Deux masses volumineuses reliées par une région plus étroite. Un gigantesque haltère cosmique, un astéroïde en forme d'os de chien. Cette forme paraît presque impossible. Nous sommes tellement habitués aux planètes sphériques que cet objet semble défier notre intuition du ciel. Mais justement, Cléopâtre nous enseigne une idée fondamentale, la sphère, est un privilège des grands corps. Pourquoi les planètes sont-elles rondes? Parce que leur gravité est suffisamment forte pour écraser progressivement les reliefs et imposer une forme d'équilibre. La gravité agit comme une gigantesque main invisible qui lisse les montagnes et comble les vallées. Mais les petits objets n'ont pas assez de gravité pour cela. Sur un astéroïde, les irrégularités survivent pendant des milliards d'années. Les cicatrices des collisions demeurent visibles, les fractures persistent. Les astéroïdes ne sont pas des mondes parfaits. Ce sont des ruines. et Cléopâtre est probablement l'une des plus étranges de ces ruines cosmiques. Les astronomes pensent aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un bloc compact, mais plutôt d'un assemblage de fragments maintenus ensemble par une gravité extrêmement faible, un tas de gravats. Peut-être les restes d'anciens corps brisés lors des gigantesques collisions des débuts du système solaire. Car le jeune système solaire était un univers de violence. Des milliers d'objets entraient continuellement en collision. Certaines collisions construisaient les planètes et d'autres les détruisaient. Et les astéroïdes sont probablement les fossiles de cette époque. Cléopâtre semble riche en métal, notamment en fer et en nickel. Pendant un temps, certains astronomes ont imaginé qu'il pouvait s'agir du noyau métallique mis à nu, une ancienne petite planète détruite. Comme si nous observions directement le cœur d'un monde disparu. Mais les mesures les plus récentes montrent quelque chose de plus subtil. La densité de Cléopâtre est étonnamment faible pour un objet métallique. Cela signifie probablement qu'il existe beaucoup de vide à l'intérieur. Autrement dit, ce n'est peut-être pas un bloc massif, mais une sorte d'éponge métallique cosmique. Et puis, l'histoire devient encore plus extraordinaire. En 2008, grâce aux observations du télescope Keck à Hawaï, équipé d'optiques adaptatives, les astronomes découvrent que Cléopâtre possède deux lunes. La découverte est menée notamment par l'astronome français Franck Marchis. L'optique adaptative est aussi une invention magnifique. L'atmosphère terrestre brouille continuellement les images astronomiques. Les étoiles scintillent parce que l'air bouge sans arrêt. L'idée consiste à déformer en permanence un miroir du télescope pour compenser ces turbulences. Des dizaines, parfois des centaines de corrections par seconde. Grâce à cela, les astronomes obtiennent des images presque aussi nettes que depuis l'espace. Et soudain, près de Cléopâtre, apparaissent deux minuscules points lumineux de lune. Leurs noms sont très beaux. Alex Helios et Cléo Selena. Les noms ne sont pas choisis au hasard. Cléopâtre évoque évidemment la reine d'Égypte et les deux satellites portent les noms de ses enfants avec Marc-Antoine. Alexandre Helios et Cléopâtre Sélénée. Helios, c'est le soleil et Sélénée est la lune. Il y a quelque chose de poétique dans cette petite famille cosmique dérivant silencieusement entre Mars et Jupiter. Ces satellites sont vraiment minuscules. Alex Helios mesure environ 8 km. Cléo Selene environ 7. À l'échelle humaine, ce sont des montagnes, à l'échelle astronomique, presque des poussières. Et pourtant, leur mouvement révèle énormément de choses. Cléo Selene, la lune intérieure, tourne autour de Cléopâtre en un peu plus d'un jour. Alex Helios met environ 2 jours et demi. Leurs orbites sont presque circulaires et surtout presque exactement situées dans le plan équatorial de Cléopâtre. Et ce détail est probablement le plus important. S'ils avaient été capturés au hasard, leur trajectoire serait sans doute inclinée, irrégulière ou excentrique. Tout suggère au contraire qu'ils sont nés de Cléopâtre lui-même, car Cléopâtre tourne extrêmement vite sur lui-même. Un tour complet en un peu plus de 5 heures. Pour un objet aussi grand, et probablement aussi fragile, c'est énorme. Et là intervient une idée intéressante. Sur certaines régions de Cléopâtre, notamment près des extrémités, la force centrifuge compense presque la gravité. Autrement dit, des pierres pourraient presque s'envoler naturellement. Les astronomes pensent donc qu'au cours du temps, des matériaux ont lentement glissé vers l'extérieur, puis certains fragments se sont détachés avant de se mettre en orbite et de former ces deux petites lunes. C'est presque un objet qui engendre naturellement ses propres satellites. Un monde qui, transpire lentement sa matière. Et cela nous révèle quelque chose de plus profond sur les petits corps célestes. Ils sont fragiles. Nous imaginons souvent les astres comme des objets solides, éternels, immuables, mais beaucoup d'astéroïdes ressemblent plutôt à des empilements précaires, des architectures temporaires, des objets presque à la frontière entre le solide et le fluide. Les deux petites lunes jouent aussi un rôle essentiel pour les astronomes. Grâce à leur mouvement, on peut mesurer la masse de Cléopâtre, sa densité et même soupçonner sa structure interne poreuse. Exactement comme Newton avait déduit la masse de la Terre grâce au mouvement de la Lune. Les deux petites lunes servent ici de sonde gravitationnelle. Sans elles, nous connaîtrions beaucoup moins bien Cléopâtre. Et l'histoire devient encore plus fascinante. Des travaux récents montrent que les rotations de ces satellites sur eux-mêmes pourraient être chaotiques. Ils ne montreraient peut-être pas toujours la même face à Cléopâtre, mais pourraient culbuter lentement de manière complexe. Même un système aussi minuscule peut devenir dynamiquement compliqué. Pendant plus d'un siècle, Cléopâtre n'était qu'un point lumineux, insignifiant. Et puis, on découvre sa forme impossible, puis ses deux lunes, puis probablement sa structure interne poreuse, puis l'évolution dynamique de tout le système. Comme si, peu à peu, un petit monde invisible révélait sa personnalité. Cléopâtre nous rappelle finalement que l'univers est plus inventif que nos intuitions. Le ciel n'est pas seulement peuplé de sphères parfaites, il contient aussi des ruines, des fractures, des mondes presque accidentels. Et pourtant, derrière cette apparente bizarrerie, ce sont toujours les mêmes lois simples de la gravitation qui agissent. Les mêmes équations qui gouvernent le mouvement de la Lune autour de la Terre suffisent aussi à produire, quelque part entre Mars et Jupiter, un immense os métallique accompagné de deux petites lunes silencieuses dérivant lentement dans la nuit du système solaire. Vous avez écouté Stars from the Lead, Requiem for Dying Mothers.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.